Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver pour notre temps de culte ce matin. Et quel bon temps de louange. Waouh. Ce matin, je voudrais vous proposer un passage dans l'évangile de Jean. Et nous allons lire en fait le début du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Voici ce qui est écrit. Donc à partir du verset 1, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit : Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa. Et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Amen. On pourrait s'arrêter là, en fait. On voit dans ce passage qu'il est question de plusieurs personnes. Est-ce que vous avez identifié les différents personnages de cette partie de l'histoire ? Je vous écoute. Jésus, oui. Qui d'autre ? La femme adultère, oui. Les pharisiens, oui. Oui, on va dire que c'est un peu le même groupe. Le peuple, exactement. On a rassemblé un peu tout le monde. Donc, les spécialistes de la loi et les pharisiens, cette femme qui a commis un adultère, la foule ou le peuple, et bien sûr, Jésus. Et ce matin, nous allons aborder l'attitude de chacune de ces personnes pour voir quel enseignement nous pouvons recevoir de la part de Dieu. D'accord ? Oui ? Vous me rassurez. Alors commençons avec les spécialistes de la loi et les pharisiens. Qu'est-ce que le texte nous apprend sur eux ? Alors d'abord, on a vu qu'ils sont accusateurs vis-à-vis de la femme. Ensuite, on voit qu'ils cherchent une deuxième chose, c'est qu'ils cherchent à impliquer la foule en plaçant la femme au milieu d'elle. Et puis on voit également qu'ils ont un état d'esprit qui est plutôt assez négatif vis-à-vis de Jésus, puisqu'il cherche à le piéger dans le but de porter des accusations contre lui. Ils veulent clairement faire du tort à Jésus. Et ça, ce sont les premières attitudes que nous pouvons lire à propos de ces spécialistes de la loi et de ces pharisiens, avant que Jésus n'intervienne. Et parfois, on peut être amené à se comporter de la même manière que ces personnes. Parfois, on peut juger des personnes que nous avons vues chuter. Parfois, on peut même juger des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont même pas conscience de la situation, mais pourtant, nous les jugeons. On peut même parfois essayer d'impliquer d'autres personnes, comme si être plus nombreux à penser la même chose était une manière de nous donner raison. Il peut même arriver, dans certains cas, d'accuser Dieu de ne rien faire, de ne pas agir dans cette situation si scandaleuse à nos yeux. Mais on le comprend assez bien, ce n'est pas du tout le comportement que nous sommes appelés à avoir. Et ça, c'est sans parler de ce que ces spécialistes de la loi et ces pharisiens disent. C'est déjà juste dans l'attitude. D'ailleurs, par rapport à ce qu'ils disent, examinons un peu plus leur argumentation. Ils disent à Jésus, au verset 4, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Est-ce que vraiment la loi de Moïse dit ça? À votre avis? Alors oui et non, on va voir. C'est écrit dans Exode au chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Donc jusque-là, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose de positif. C'est l'un des 10 commandements. Et plus loin, dans Deutéronome au chapitre 22, verset 22, « Si on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Alors, bien sûr, ce qui était valable à l'époque n'est plus valable aujourd'hui, hein, on est d'accord? Mais il y a une chose qui me frappe quand même dans ces textes. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelqu'un dans les accusés? Et il manque l'homme. Ça semble assez évident. Où est l'homme qui a commis l'adultère? Lui, il semble ne pas avoir été accusé et amené devant Jésus. On veut appliquer la loi, mais attention, que la partie qui nous arrange. Malheureusement, on évite, c'est vrai, tenter d'appliquer parfois la Bible à la carte, mettant en avant ce qui nous avantage et puis laissant de côté ce qui nous remet en question. Mais la parole de Dieu, c'est pas à la carte. Alors, bien sûr, on ne connaît pas tout et nous apprenons chaque jour davantage. On apprend plus sur la manière de marcher avec Jésus, sur la manière de lui être agréable, sur la manière de faire sa volonté. Mais ça implique aussi d'apprendre à écouter lorsque nous recevons des réprimandes, lorsque le Seigneur nous interpelle pour nous remettre en question, afin que nous puissions changer d'attitude. Pas pour que nous fassions semblant d'oublier ce qui nous dérange. Donc on voit déjà qu'il y a une application qui est un peu bancale, en fin de compte, de la loi. Mais il manque une autre personne. Est-ce que vous avez remarqué? Il s'agit d'une femme mariée. Où est son mari? Où est le mari trompé? Parce que c'est lui, en réalité, dans cette situation qui a été vraiment lésé, qui devrait être le premier accusateur. Mais lui non plus n'est pas là. Il n'y a que les spécialistes de la loi et les pharisiens qui se montrent plus scandalisés que le premier intéressé. C'est quand même bizarre. Et si le mari avait choisi de ne pas accuser sa femme? S'il avait choisi de lui pardonner? Pourquoi est-ce que tous ces hommes continueraient de l'accuser et de la juger? Et si Dieu a pardonné? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous continuons à juger certaines personnes? Parfois, il y a des situations où on se retient de pardonner. On préfère continuer de remuer ce qu'on a subi soi-même, ou subi peut-être par procuration des fois. Et on se nourrit de cet état de cœur douloureux. Mais en même temps, on aime reparler de ces choses encore et encore. Mais ce n'est pas notre rôle. C'est pas notre appel d'agir de cette manière. On le voit, l'attitude de ces spécialistes de la loi et de ces pharisiens, elle n'est pas si loin de celle que nous pouvons avoir nous-mêmes par moments. Mais, mes frères et sœurs, fuyons cet état d'esprit. Car cette attitude ne fait que nous éloigner de Dieu, en fait. Nous sommes appelés à rejeter tout esprit de jugement. Et nous sommes appelés à pardonner, sans condition, et autant de fois que nécessaire. C'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément facile à faire. Mais Jésus nous encourage. Il nous encourage vivement dans cette voie. On le voit à plusieurs reprises. On peut lire un verset, pour exemple, dans Luc chapitre 17, verset 4. C'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. » Amen. Jésus, sur la croix, pardonnait à ceux qui le crucifiaient. Étienne, alors qu'il était lapidé, pardonnait à ceux qui lui jetaient les pierres pour le tuer. Ce sont des exemples à suivre, clairement. Observons maintenant l'attitude de la femme qui a été accusée d'adultère. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Aidez-moi un petit peu. Que savons-nous d'elle ? J'ai pas entendu. Qu'elle est mariée, oui, c'est vrai. En fait, hein, vous avez remarqué, on ne sait pas grand-chose. On sait tellement peu de choses. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas qui sont ses proches. On ne sait pas qui est son mari, par exemple. On ne connaît pas la ville d'où elle vient. On ne sait pas où elle a grandi. On ne connaît pas du tout son histoire. Elle n'a même pas la possibilité de s'exprimer, ne serait-ce que pour se défendre ou demander pardon. Elle est exposée aux yeux de tous. Elle est humiliée publiquement. Tout ce que nous connaissons d'elle, c'est son péché. Comme si, après ce qu'elle avait fait, elle n'était même plus une personne. Comme si elle était devenue son péché. Comme si son péché était devenu son identité. Et parfois, on peut se trouver dans ce type de situation. On a l'impression qu'on est tombé tellement bas. On s'est tellement éloigné de Dieu. Que tout ce qui nous caractérise finalement, c'est notre péché. Comme si le péché faisait tellement partie de nous qu'on ne peut plus s'en détacher. Comme si ce péché était devenu notre propre identité. Alors peut-être un peu comme cette femme, on n'ose plus dire un mot, on n'ose plus lever les yeux vers le Seigneur. Notre réputation a été salie, notre chute a été exposée à tout notre entourage et même plus. Et on a l'impression qu'on ne se relèvera pas. Ce qui est fou, c'est que cette femme est sur le point d'être lapidée, mais elle se comporte comme si elle était résolue à se laisser tuer. Quand on se sent mal, quand on est tombé, ça peut nous arriver de nous laisser aller à une sorte d'autodestruction. Ou de laisser ceux qui veulent nous faire du mal continuer à nous faire du mal, et même encore plus de mal. Mais mon frère, ma sœur, même si la route est difficile, les épreuves par lesquelles nous passons nous conduisent jusqu'à Jésus. Peut-être que si nous n'avions pas traversé ces épreuves, nous ne serions pas ici ce matin. Nous n'entendrions pas les paroles que Dieu a pour nous. Mais au travers des épreuves par lesquelles nous sommes passés, et par lesquelles nous passons peut-être encore aujourd'hui, nous sommes entrés dans ce lieu. Nous sommes venus nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il a fallu tout ce chemin pour que nous acceptions d'avoir des oreilles ouvertes. Et ce matin, le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas fini. Notre péché n'est pas notre identité. Nous sommes appelés à trouver notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 5 et verset 1 « Quiconque croit que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, est né de Dieu. » Et l'apôtre Paul écrit lui aussi aux Romains cette fois-ci, au chapitre 8 verset 14 « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. Abba, ça veut dire père en hébreu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors, dans quelques instants, on va voir comment Jésus a accueilli cette femme. Mais juste avant, abordons l'attitude de la foule. Et on ne sait pas beaucoup de choses non plus sur cette foule. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est constituée du peuple. Et la scène se passe dans le temple, donc on peut penser que ceux qui sont là sont juifs. Ou au moins, en tout cas, de religion juive. Disons que si on devait faire un parallèle avec aujourd'hui, ça pourrait être l'Église. Et cette foule, est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier ? Est-ce que vous avez noté une réaction particulière de la foule ? Pas vraiment, hein. On a l'impression que la foule ne réagit pas à ce qui se passe. Elle assiste, passive à la scène. Ce sont comme des spectateurs silencieux. Pourquoi ? Pourquoi reste-t-il silencieux ? On peut imaginer plusieurs choses. Peut-être que certaines personnes dans cette foule se sentent tout aussi coupables que cette femme. Car eux-mêmes savent qu'ils sont adultères. Et ils veulent éviter que l'attention se porte sur eux. Ils veulent éviter d'être accusés à leur tour. Et puis certains ont peut-être assisté au sermon sur la montagne, qui s'est déroulé quelque temps avant, et ont encore en mémoire les paroles de Jésus à propos de l'adultère. Je suis sûr que vous les avez entendues aussi, ces paroles. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis... Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si même un regard peut nous rendre adultère, une simple pensée, alors en vrai, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'ait pas été adultère au moins une fois dans sa vie ? Et puis, quand on parle d'adultère, ça dépasse la dimension de la relation de couple. Ça touche aussi à notre relation avec Dieu. La Bible nous parle de l'épouse de Christ, pas comme une personne précise et identifiée, mais comme un groupe de personnes. C'est un symbole qui nous permet de mieux comprendre l'alliance que Dieu désire conclure avec nous. L'épouse de Christ, quand on étudie les textes, on voit que c'est le peuple d'Israël, mais pas seulement, c'est aussi l'Église, c'est-à-dire nous tous, nous sommes l'épouse de Christ. Et au travers de l'histoire, on voit bien que cette alliance entre le peuple d'Israël et Dieu a été malmenée à tellement d'occasions en fait. Israël s'est détourné de Dieu à plusieurs reprises, commettant un adultère spirituel. Et dans l'histoire de l'Église, depuis les premiers siècles, le même phénomène s'est produit à plusieurs reprises. On pourrait donner plusieurs exemples. On va prendre l'exemple du prophète Osée. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a vraiment utilisé la vie de ce prophète pour illustrer de façon concrète ce qu'il vivait à l'égard du peuple. On peut lire dans Osée chapitre 1, verset 2. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Les mots sont durs. Mais c'est vrai que dans la situation que traversait Israël à ce moment-là, ça s'était vraiment beaucoup dégradé. Et plus loin, il est écrit dans Osée chapitre 3, verset 1, « L'Éternel m'a dit, « Va encore aimer une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux. » On voit bien ce parallèle entre l'adultère physique et l'adultère spirituel. Et la foule connaît ces textes. Et ils savent bien que l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adultère spirituel, pourrait les conduire à la mort, comme cette femme accusée devant eux tous. Pourtant, malgré tout cela, est encore affiché à l'écran. Dieu continue d'aimer. Dieu continue de nous aimer. Et il continue de vouloir nous sauver. Alors c'est sûr, prenons garde à nos regards, prenons garde à nos pensées. Soyons vigilants à ce que Dieu ne soit pas remplacé par autre chose dans notre vie. Mais rappelons-nous que Dieu nous aime. Et si nous avons chuté, l'apôtre Jean nous rappelle ceci, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. Il y a peut-être aussi un deuxième type de personnes dans cette foule silencieuse. Il y a peut-être des personnes qui sont tout à fait d'accord pour accuser cette femme prise en flagrant délit d'adultère, mais qui restent silencieux car ils sont bien contents que ce soit d'autres personnes qui l'accusent. Comme ça, elles peuvent garder une bonne conscience, une bonne image. Moi, j'accusais personne. On peut chercher, c'est vrai, à préserver son image, à préserver une sorte de façade, devant les hommes en tout cas. Mais ça, ça ne marche pas devant Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7, on peut lire que l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors ne cherchons pas à cacher nos mauvaises pensées. Cherchons plutôt à ne plus nourrir de mauvaises pensées. Et au contraire, comme Paul nous le rappelle dans Philippiens au chapitre 4 et verset 8, « Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. On a besoin du Saint-Esprit pour purifier nos pensées. Et puis, il pourrait y avoir un troisième type de personnes dans cette foule. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont complètement détachées de la détresse de cette femme et ils préfèrent se concentrer plutôt sur autre chose, sur le suspense grandissant dans cette scène. Comment va réagir Jésus ? Qui va clasher qui ? À quel nouveau scandale va-t-on assister ? Ah, il y a de la soif pour la dispute parfois. Il suffit d'allumer la télévision pour voir que ce mauvais penchant est régulièrement exploité par les médias. Mais la Bible nous prévient de ce genre de recherche. Paul, par exemple, demande à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 14, « Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. » Et Paul dit à Tite, dans Tite 3, chapitre 9, « Les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. » C'est fort quand même. En fait, au lieu de rester silencieux comme cette foule, quelle que soit la raison de ce silence, quelle attitude devrions-nous avoir ? C'est ça la vraie question, en fin de compte. Quelle est l'attitude la plus adaptée ? Une attitude d'amour, tout simplement. Dans 1 Corinthiens 13, on peut lire que, au verset 7 notamment, que l'amour pardonne tout, que l'amour croit tout, que l'amour espère tout, que l'amour supporte tout. Et au chapitre précédent, l'apôtre Paul fait le parallèle entre un corps humain et l'Église. On est dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Voici ce qui est écrit. « Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, on le comprend à travers ces versets. En étant un corps, cette situation, en fait, n'aurait jamais dû se produire. Ni accusation, ni peur d'être accusé, ni soif de scandale. Mais au contraire, choisissons d'accueillir, de soigner, d'entourer, de prendre soin, d'agir avec bonté. Choisissons d'aimer. Voilà l'une des plus belles vocations de l'Église. Et prions pour que notre Église de Colomiers continue de persévérer dans cette vocation. Prenons cela à cœur, car c'est notre responsabilité à tous. Amen. Il nous manque un personnage dans cette histoire. Qui est-ce qui manque ? Jésus. Donc abordons enfin l'attitude de Jésus. Et on conclura sur ce point. Que lisons-nous de l'attitude de Jésus ? Dans un premier temps, est-ce que vous avez remarqué ce qu'il fait ? Il écrit. Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été données sur ce que Jésus pouvait bien écrire. Ça reste très mystérieux. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé être là pour voir. Mais le mystère reste un mystère. En revanche, ce que l'on peut noter, c'est que quand on regarde ce qu'a fait Dieu vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de nous, eh bien, Dieu nous a écrit. Il nous a écrit sa parole. Nous la lisons encore aujourd'hui, nous en parlons ce matin. Nous sommes appelés chaque jour à méditer cette parole. Et l'apôtre Jean nous rappelle que Jésus est la parole faite chair. On peut le lire dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors finalement, ce n'est pas si étonnant que Jésus ait choisi d'écrire avant de faire tout autre chose. Mais il ne fait pas que ça. Jésus s'adresse aussi aux accusateurs, à ces fameux spécialistes de la loi et ces pharisiens. Et Jésus, il a bien compris ce qu'ils sont en train de faire. Ah, ils veulent appliquer la loi. Mais qui sont les témoins ? Et surtout, qui lancera la première pierre ? Est-ce que quelqu'un est à ce point sans péché pour avoir le droit de juger son prochain ? Il y a un seul homme qui est sans péché, c'est Jésus-Christ. Pourtant, Jésus lui-même n'est pas notre juge. Il est au contraire notre avocat. La Bible nous rappelle dans Jean 3, 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et l'accusateur, en réalité, c'est Satan. Et Jésus est venu nous défendre. Il est venu inscrire notre nom dans son livre de vie. Car, vous connaissez ce verset par cœur, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Amen. Alors, face à cela, qu'ont fait les spécialistes de la loi et les pharisiens ? On voit au verset 9 dans Jean 8 que, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Ils se sont rendus compte les uns après les autres que personne n'était irréprochable. Et finalement, c'est aussi une bonne chose, parce que s'approcher de Dieu, ça commence par là. Comprendre que nous sommes pécheurs et qu'à cause de cela, nous sommes condamnés. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ces paroles-là, on les retrouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Puis, ensuite, Jésus s'adresse à la femme. Et est-ce que vous avez remarqué, c'est le seul à s'adresser à cette femme. C'est le seul à lui donner la parole. On peut le relire dans Jean chapitre 8, verset 10. « Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Il la considère. Il ne la traite pas comme les hommes l'ont traité. Il l'appelle même à constater qu'aucun accusateur ne peut subsister devant Dieu. Et elle l'appelle Seigneur. Elle se soumet à lui, elle reconnaît son autorité. En faisant cela, elle reçoit le pardon de Dieu. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Elle reçoit ce conseil de ne plus pécher. C'est-à-dire de ne plus commettre d'adultère, bien sûr, mais ce n'est pas seulement ça. C'est surtout aussi de ne plus s'éloigner de la volonté de Dieu pour sa vie. Car même si la volonté des hommes pour elle, c'était la mort, la volonté de Dieu pour elle, c'est la vie. Et même la vie éternelle. Elle est, et nous sommes, enfants de Dieu. Alors, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, soyons donc les imitateurs de Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Amen. Alors, baissons nos têtes encore un instant. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour ce passage si riche en enseignements. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai jugé, toutes les fois où Seigneur, je me suis laissé aller à ce type de pensée. Seigneur, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi, mon Dieu. Et Seigneur, je veux te remercier pour toutes les fois où j'ai été moi-même jugé, accusé. Peut-être à tort, peut-être à raison, Seigneur, ce n'est même pas la question. Mais Seigneur, je veux te demander, te dire plutôt, merci. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes toujours. Parce que tu m'as pardonné, parce que tu as pardonné chacun de mes frères et sœurs. Parce que tu es venu nous apporter la vie. Parce que tu es venu nous transformer, pour transformer nos pensées, transformer notre être. Merci pour l'Église qui est là, pour le soutien que tu as mis à nos côtés, pour ces frères et sœurs qui sont là pour nous épauler, pour nous manifester de l'amour, même quand nous ne le méritons pas. Merci Seigneur pour ta présence chaque jour. Merci pour Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Aide-nous Seigneur chaque jour à nous rappeler que notre identité, elle est en toi. Que notre identité, c'est que nous sommes tes enfants. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Alors merci mon Dieu vraiment pour ta grâce. Aide-nous chaque jour à être tes imitateurs, à rechercher à avoir ton caractère, à rechercher à avoir tes sentiments. Merci pour tout, Seigneur éternel. Que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur. Amen.